vais pas faire durer le suspense. Le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nous voilà en respect.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Le 1er février 2025, à la maison des syndicats de Corbeil-Essonne, se tenait une journée contre la violence carcérale en soutien au comité Vérité pour Alassane, avec la présence de nombreux collectifs luttant contre les violences en prison, comme au sein des centres de rétention administrative en France, comme en Palestine. Était présent ce jour-là, évidemment, le comité Vérité pour Alassane, Abba l'Écra, L'Envolé, l'Observatoire citoyen du CRA de Palaiseau, comité de soutien aux inculpés du 8 décembre, Samidoun, Paris banlieue, Désarmons-les, Réseau d'entraide Vérité et Justice, Solidaire 91, l'Observatoire international des prisons, l'AIM Panam, la cellule de mobilisation parisienne pour la Kanaky, l'Antimédia. Dans un premier temps, vous allez pouvoir entendre la présentation d'un certain nombre de ces collectifs présents, puis le témoignage de deux prisonniers et la conclusion des débats qui ont pu avoir lieu. Vous pourrez entendre une sélection des débats qui ont pu avoir lieu ce jour-là. Pour avoir plus d'informations sur la mort d'Alassane Sangaré, qui est mort à Fleury-Mérogis le 24 novembre 2022, vous pouvez écouter l'émission du 24 janvier 2025 sur l'actualité des luttes .info, où nous recevions les deux sœurs d'Alassane Sangaré.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes la famille d'Alassane Sangaré. Alassane, c'était un frère, un ami, un fils, qui est mort en prison le 22 novembre 2022 à Fleury-Mérogis. Alassane avait été incarcéré pour un conflit de voisinage et il est mort 5 jours après son placement en détention provisoire. Et aujourd'hui, nous devons nous battre pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, puisque, comme vous le savez tous, c'est un combat qui est très dur et très long, et surtout la justice essaie de nous faire croire qu'il se serait suicidé, ce qui est faux. Nous avons apporté un certain nombre d'éléments qui démontrent que Alassane ne s'est pas suicidé, mais malgré ça, c'est encore très compliqué. En tout cas, aujourd'hui, merci au GRA pour l'organisation de cette journée, parce que c'est important de visibiliser ce genre de combat. Malheureusement, la prison, tout le monde s'en fiche. C'est terrible, c'est un constat, on le voit au quotidien, il faut se battre. Donc merci à eux, de nous avoir tendu la main et d'organiser de cette journée. Merci à tous les comités, toutes les organisations qui sont autour de cette journée et d'être là à nos côtés pour parler des autres causes, puisque finalement, on est tous touchés par la même chose. Et si on ne se soutient pas tous ensemble, malheureusement, nous ne pourrons aller nulle part.
Je vais proposer à tous les groupes présents ici de se présenter. Donc...
Bonsoir tout le monde. Avant de prendre la parole, je vais tenir à m'excuser. Donc nous, on est la cellule de mobilisation parisienne pour Kanaky. Ici, et cette première parole, ça sera comme on fait chez nous en Nouvelle-Calédonie, en Kanaky. Ça sera simplement un geste de bonjour. Normalement, on l'accompagne d'un tissu, d'un tapas, pour poser la parole, pour simplement dire bonjour avec humilité ici. Et ce geste, elle revient à la famille Sangaré. C'est avec humilité qu'on va tenter de vous donner un peu les éléments factuels. Pour nous, ce que incarne la répression coloniale et la question des prisons en Kanaky. Comme les enfants ici des banlieues, nous, le peuple Kanak, peuple autochtone de Kanaky, on subit simplement cette répression. Le contrôle au faciès, nous, ça nous parle quand on arrive ici. Tout simplement, cette répression, par tout l'appareil, elle va aussi s'incarner par l'appareil carcéral, les prisons. En Kanaky, 90% des prisonniers dans le centre pénitentiaire de Nouméa sont des Kanaks. 95% océaniens, plus largement. Le soulèvement de mai 2024 qui s'est passé avait conduit dans un premier temps à une mutinerie dans la prison. Et moi, ce qui me fait assez troublant en lisant les quelques lignes de l'article qui est sorti sur Street Press, c'est que en Calédonie, il y a aussi une famille qui a découvert seulement 2 semaines après la mort de leur enfant. Là, les autorités ont caché que durant cette mutinerie, il y a un Kanak qui est mort dans sa cellule et dans les circonstances, il reste toujours à éclaircir. Au-delà des idées qu'on va venir apporter, des choses qu'on va ensemble déconstruire, il y a des familles endeuillées. Il y a des familles qui portent les peines et que cette répression, au-delà des mots et des grands slogans et des grandes idéaux, il y a tout simplement des gens en souffrance. Aujourd'hui, nous, on fait le déplacement, on vient, on s'excuse encore une fois de ne pas apporter ce qu'il faut pour l'événement, mais on vient tout simplement apporter... un soutien venu de l'autre côté des océans qui vient tout simplement vous dire que vous n'êtes pas seul face à cette injustice. Ici, ensemble, on partage, je vois dans les regards, on partage cet idéal de justice. On partage cet espoir que demain, nous, les enfants des anciennes colonies, les dominés d'hier, on pourra trouver cette place dans cette nouvelle société. Donc, c'est avec... humilité et respect que je pose cette parole-là et que je viens donner les derniers éléments que nous, aujourd'hui, le peuple kanak a subi en termes de répression, celui d'une déportation de 70 militants indépendantistes kanak, dont 7 représentants de la CCAT, dont 2 mères de famille. Encore une fois, dans cette répression-là, y a toujours l'intime qui est lié, il y a toujours l'humain. Il y a toujours les souffrances derrière des combats, c'est des fardeaux que chaque famille vient porter. Donc ce geste-là, c'est un geste de bonjour et puis un geste de partage, et de solidarité devant la peine que chacun et chacune doivent porter, mais avant tout, ici, la famille Sangaré. Voilà. Dans ma langue, on dit merci, Oleti.
Bonjour tout le monde, moi je suis Fatou Dieng, une des sœurs de Lamine Dieng qui a été tuée par la police il y a 17 ans, donc le 17 juin 2007 à Paris 20e, par clé d'étranglement et plaquage ventral. Donc on a été jusqu'à la Cour européenne après plusieurs non-lieux pour juste entendre dire que Lamine ne s'est pas donné la mort et qu'il n'était pas responsable de sa mort. Je suis aussi membre du réseau d'entraide Vérité Justice qui rassemble plusieurs collectifs. Deux familles endeuillées, deux familles de proches, de personnes qui ont été
blessés par la police, mutilés ou autres, des personnes endeuillées aussi, des familles endeuillées par la prison, par les institutions psychiatriques aussi. Donc on lutte toutes et tous ensemble et on est principalement des premières et premiers concernés. Là, par exemple, je peux vous annoncer une marche à venir au mois de mars qu'on fait chaque année depuis plus de 10 ans contre les violences, les crimes et les racismes d'État. Et donc là, aujourd'hui, c'était important pour nous d'être là du fait que, voilà, on traverse aussi la même chose. C'est la même impunité aussi, la même injustice. Et voilà, donc c'est pour aussi mettre un point d'honneur à toutes ces violences et crimes d'État.
Bonjour, moi je représente le collectif Désarmons-les, qui d'ailleurs fait partie du réseau d'entraide Vérité et Justice. Désarmons-les, depuis un peu plus de 10 ans, on observe les pratiques policières, on recense les armements surtout qui évoluent dangereusement vers une militarisation forcenée. Avec l'équipe d'Antimédia aussi, on essaie de tenir à jour un listing assez funèbre, c'est-à-dire les morts, les crimes policiers, recensés tous les ans. Tous les crimes dont on est au courant, c'est-à-dire évidemment il faut tenir compte du fait qu'il y en a pas mal qui sont encore étouffés. L'an dernier, en 2024, justement, on a atteint un plafond jamais atteint depuis environ 50 ans. On a compté 55 morts, 55 crimes policiers, en comptant les 7 camarades canaques qui sont tombés sur les barricades, assassinés par le GIGN, si je ne me trompe pas. Donc 55 morts, je crois que oui, c'est le chiffre le plus important, et c'est vrai que les années Macron sont assez... catastrophique, puisque sous son règne, en 8 ans, on est à 39 morts par an en moyenne, alors que même les années Sarkozy, c'était environ 10 morts par an. Donc voilà pour le constat assez accablant. Ben, on est en solidarité aujourd'hui avec la famille d'Alassane. Merci d'être là.
Donc nous, on est là aussi pour parler du camarade Gino qui a été arrêté à Paris en fin d'année dernière et qui risque d'être extradé en Hongrie pour avoir fait une contre-manifestation contre la marche de l'honneur. Donc la marche de l'honneur, c'est des néo-nazis qui célèbrent la résistance des collaborationnistes et des nazis face à l'URSS. Les droits de Gino ne seront pas garantis en Hongrie, mais à cause des traités européens, l'extradition est beaucoup plus simple pour les militants européens vers les pays membres de l'Union.
Bonjour à tous. Alors nous, on est le comité parisien de soutien aux inculpés du 8 décembre. Je vais vous faire juste un petit rappel rapide de l'affaire. Donc ça date de 2020. Il y a eu une grosse opération policière dans différents lieux en France avec pas mal de perquisitions et des arrestations. À l'issue des gardes à vue, il y a 7 personnes qui ont été inculpées pour association de malfaiteurs terroristes et 5 d'entre eux qui ont été envoyés directement dans différentes prisons d'Île-de-France en préventive, dont un à l'isolement total. Les arrestations, elles se sont concertées au centre d'une personne qui était partie au Rojava se battre aux côtés des Kurdes contre Daesh. Donc c'est cette personne-là qui était à l'isolement carcéral pendant tout 16 mois et qui est sortie après une grève de la faim de 37 jours, je crois, si je me rappelle bien, 35 ou 37 jours. Après, il y a eu quand même un contrôle judiciaire assez strict pour tous les inculpés. Et ensuite, il y a eu le procès en octobre 2023. Enfin, c'était un fiasco judiciaire. Et du coup, la juge a condamné pour terrorisme, alors même qu'ils ont reconnu qu'il n'y avait pas de projet, pas de groupe et pas de cible. Et il y aura un appel en novembre 2025. Voilà.
Bonjour, nous on est l'Assemblée contre les CRA en Ile-de-France. Nous on se mobilise du coup contre les centres de rétention administrative qui sont des lieux d'enfermement pour les personnes étrangères en France en attente d'expulsion. On fait du lien avec les retenus dans les différents CRA d'Ile-de-France, il y en a 4 en ce moment. On fait sortir des témoignages, on a pas mal de brochures et de récits qui sont dispo du coup sur la table ici. Et on se mobilise aussi contre les nouvelles constructions parce que, enfin, il y a beaucoup de nouveaux CRA qui sont prévus en France et en Ile-de-France. Il y en a un nouveau qui serait prévu à Goussainville, une extension d'un CRA déjà existant au Ménil-Amelot, à côté de Roissy. Voilà. on fait. Bonjour. Nous, on est l'Observatoire citoyen du CRA de Palaiseau. Donc, on s'occupe seulement du CRA de Palaiseau. On existe depuis un certain bout de temps. On fait des visites aux retenues au sein du CRA. Et on essaye d'informer la population locale de l'existence du CRA et des conditions de rétention avec des distributions de tracts, place du marché une fois par mois et des petits événements. Et on écrit aussi régulièrement dans le journal Le Petit ZPL pour parler des CRA et des conditions de rétention.
Du coup, nous, on est Samidoun Paris Banlieue, donc la section parisienne d'un réseau international de soutien aux prisonniers et aux prisonnières palestiniens et palestiniennes, mais pas uniquement. Donc là, aujourd'hui, on est dans un événement qui concerne les prisons françaises. Dans les prisons françaises, il y a un prisonnier politique, combattant de la résistance palestinienne, qui est enfermé depuis plus de 40 ans aujourd'hui en France. Donc c'est Georges Abdallah. Juste pour appeler à la manifestation le samedi 8 février. Merci.
Alors, bonjour. Déjà, merci beaucoup de nous avoir invité à participer à cet événement. Donc nous, on est l'Observatoire international des prisons. Ça fait 30 ans que cet asso existe pour défendre les droits des personnes détenues, moins justement recourir à l'emprisonnement. Donc ça nous tenait à cœur de venir ici discuter des violences carcérales, du mitard, et encore merci.
Ici, c'est la table de Solidaire 91. Merci au GRA 91 et puis évidemment à la famille d'Alassane d'être ensemble sur cette journée. Au niveau du syndicalisme, on voudrait rappeler que les prisonnières et les prisonnières n'ont pas droit de se syndiquer. Ils se situent vraiment en dehors du droit du travail. Le SMIC, c'est entre 20 et 44% quand les camarades prisonniers et prisonnières ont accès au travail, parce que ça aussi, c'est une question qui doit être abordée. Ils et elles n'ont pas le droit de faire grève, ils n'ont pas droit au congé payé. Donc tout ça, on voudrait le rappeler. On est heureux d'être dans cette bourse du travail, c'est très récent. Ça date, je crois, de même pas un an.
Alors bonjour à tous et à toutes. Nous, on est L'Envolée, on est une émission de radio, mais on est aussi un journal écrit. On existe depuis 2001. Il a été créé, enfin, ça a commencé par une émission de radio qui a été créée par des anciens prisonniers. Et aujourd'hui, on est principalement constitué d'anciens prisonniers et prisonnières et de familles de proches incarcérés. Parce qu'il se passe des choses ignobles à l'intérieur et puis que nous, familles, on est enfermés dehors et qu'on est impuissantes face à ces structures qui détruisent et qui tuent à l'intérieur par plusieurs façons de le faire, par des pressions morales et psychologiques qui peuvent pousser au suicide. Et puis, il est tellement facile de dire qu'un prisonnier s'est suicidé dans une structure fermée où les seuls yeux qu'il y a, c'est l'administration pénitentiaire et ceux qui y travaillent. Il y a des lynchages de surveillance sur les prisonniers, plein de douleurs, plein de souffrances, des morts, des gens qui ne sont pas soignés, qu'on laisse crever dans 9 mètres carrés, à 3 dans une cellule, parfois, à 4. On est là pour pas laisser faire sans rien dire. Et puis, pour soutenir la famille d'Alassane et les autres. Voilà.
Bonjour, nous on est l'Antimédia, donc c'est un site internet qui fait la chronique de l'oppression quotidienne. C'est un site qui se propose de collecter, d'archiver et de republier les articles parus dans la presse sur les violences policières, judiciaires et carcérales. On fait ce travail d'archivage pour garder la trace de tous ces méfaits et aussi dans l'espoir que cette collecte serve à ceux et celles qui voudraient en faire les analyses. C'est pour nous important d'être là aussi pour apprendre à vos côtés et entendre autre chose que ce qu'on lit quotidiennement.
Les menottes, les notes, la machine à taper. Ton nom, prénom, naissance, nationalité. Poche vidée, ensuite lacée, ceinture enlevée. Feu d'artifice et l'armistice, le pays est en fête. Pour moi la fête en garde à vue dans les cages de la police. 9h, 11h, parle, ton nom est sur le tas. J'ai fait 6 pas dans l'enfer des galères. La poisse, les empreintes, les plaintes et ce tribunal. Ma famille et mes proches en soutien principal. Pimpon, pimpon. Les flics éclatent, roulent à fond, bon mon avocat est clair. Mais le juge persévère, il est 20h, mon matricule 49-203, change en cellule, des 128, la pente claque, mon cœur bat. Mon cousin, 49-204, me parle de date, me mate, enchaîne, soleil, business et rate. Le trouble est dans ma tête, et le maton te guette. Mon corps est enfermé, seul mon âme peut voguer. Barreau, porte bloquée, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent, et le maton te guette. Mon corps est enfermé, seul mon âme peut voguer. Barreau, porte bloquée, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête, et le maton te guette.
Bonjour tout le monde, Yannick Deslandes, je suis un ancien détenu, j'ai fait 22 ans de prison. Quand on parle de violence carcérale, bah, je vais simplement vous partager un petit peu de mon expérience. La toute première fois où j'ai été au mitard, où j'ai connu un choc de violence carcérale, c'est quand on m'a ouvert cette porte du mitard, c'était à Fleury-Mérogis, hein, la plus grande prison d'Europe. C'était il y a 37 ans et pourtant je me rappelle vraiment de chaque détail de ce moment où je suis rentré dans cette pièce. La porte s'ouvre, on voit une grille derrière, on voit un petit passage où on nous passe la gamelle pour manger comme si on était réduit à l'état d'animal, qui rentre juste au niveau des toilettes turques. Un grand lit en béton, donc évidemment très gelé, très froid pour passer l'hiver. Un matelas crasseux. Les draps, tout est enlevé la journée. Les murs jaunis, des inscriptions un peu partout. Et on a l'impression que le temps s'est arrêté, qu'on a enterré vivant. Une lumière qui marche 24 heures sur 24, pas assez forte pour nous permettre de lire, mais suffisamment pour nous empêcher de dormir. Seule compagnie des livres qu'on nous donne où il manque énormément de pages, donc impossible de suivre une lecture. Voilà, c'était il y a 37 ans et vraiment je me rappelle de chaque détail de ce moment comme c'était hier. Une deuxième violence carcérale que j'ai connue, c'était ma dernière peine de prison il y a 5 ans. On avait tous des plaques chauffantes qu'on avait achetées, des plaques électriques pour pouvoir cuisiner en cellule et essayer d'améliorer un petit peu notre quotidien. Un beau jour, on découvre qu'il y a une annonce qui est faite dans le couloir, une petite affiche. On nous dit que les plaques électriques seront retirées et elles seront remplacées par des plaques à induction qu'il faudra payer. En prison, il y a beaucoup de détenus qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de travail, qui ne sont pas assistés, donc n'ont absolument pas les moyens de s'offrir ce luxe, qui ont généralement récupéré les plaques par les détenus qui sont sortis avant. À partir du moment où on a acheté une plaque chauffante, on ne l'a pas achetée pour une durée limitée, on l'a acheté pour l'utiliser le temps de notre détention. Donc déjà, qu'on nous les retire alors qu'on les a payés légalement dans ces prisons et qu'on nous oblige d'acheter quelque chose pour les remplacer, ce n'est pas normal. Donc on a été très nombreux à écrire à la direction sans avoir gain de cause, sans avoir d'ailleurs aucun retour. Et un jour, on a décidé de ne pas remonter de promenade parce qu'on voulait se faire entendre. On voulait simplement que la directrice de la prison vienne à notre rencontre, qu'elle puisse aussi entendre ce qu'on avait à dire. Le résultat, ça a été punition collective, 10 jours de mitard pour tout le monde. 10 jours de mitard, ce n'est pas simplement 10 jours d'isolement total et de souffrance, ça veut dire aussi 20 jours de grâce de retirer, donc 20 jours de prison supplémentaires. Ça veut dire aussi qu'à la prochaine commission d'attribution des remises de peine, forcément, on en aura moins parce qu'on a été au mitard, donc ce qui rajoute encore sur la durée de détention. Et pour ceux qui ont le malheur de passer pour une demande de permission ou ce genre de choses, à ce moment-là, forcément, ça sera refusé parce qu'il aura été au mitard. La troisième expérience qui a certainement encore plus marqué ma vie, en tout cas ma vie carcérale, c'était à mes 40 ans. J'étais dans ma cellule, je préparais des gâteaux, le règlement pour la douche, parce que la douche était à l'extérieur des cellules, c'était de mettre un papier en travers de la porte pour appeler le surveillant, pour lui dire « voilà, je voudrais aller à la douche », et il fallait le faire avant 11h du matin. Donc je fais attention à l'heure, je prépare mes gâteaux, et à 11h moins le quart, je mets le papier, ce qu'on appelle un drapeau, hein, pour appeler le surveillant. J'entends le surveillant passer à plusieurs reprises, parce que c'est la seule personne qui a un trousseau de clés, sans s'arrêter, et à 11h pile, il ouvre ma porte. Quand il ouvre la porte, je lui dis « surveillant, quand même, ça fait un quart d'heure déjà que je vous ai mis le drapeau ». Et ce surveillant, vraiment, est dans la provocation et il me traite de menteur. Et à ce moment-là, j'étais quand même dans une période de ma vie où j'étais quand même très agité. Et qu'on m'insulte, qu'un surveillant m'insulte de menteur alors que je savais que je n'avais pas menti et que je savais qu'il le savait, je l'ai très mal pris, je l'ai insulté. Il a approché son visage du mien en me disant « tu sais pas qui je suis ». Enfin, vraiment, une provocation pour que je passe à l'acte, pour que je le frappe, parce que derrière, ça leur permet aussi de dire, vous voyez, il y a de la violence, il y a de l'insécurité en prison, on n'arrête pas de vous le dire, etc. Et au dernier moment, j'ai un petit flash qui est passé dans mon esprit, qui m'a fait me dire, en tout cas, les conséquences. Donc je lui ai juste craché au visage en disant que ce n'était pas un homme et que je frappais que sur les hommes. Il a sonné l'alarme, je suis parti au mitard, j'ai pris 30 jours. Quand je suis arrivé au mitard, pendant les deux premiers jours, j'étais un petit peu dans la colère, évidemment, de la situation. Et au bout de 2 jours, vous êtes seul avec vous-même, en fait. Hein. Vous êtes seul, il n'y a plus rien pour vous occuper l'esprit. Donc plus de sport, plus moyen de cuisiner, plus rien. Et là, vous avez un petit peu, vous êtes face à vous-même. Vous êtes face à un miroir et il y a tout ce que vous endurez, tout ce qui compose votre vie à ce moment-là, qui remonte à la surface. Moi, ce qui est remonté à ce moment-là, c'est j'étais condamné à 17 ans de prison, j'en avais 40. Le calcul est vite fait. Je me dis, mais je sors, ma vie, elle est finie. Enfin, c'est ce que je pense à ce moment-là. Je me dis, ma mère est âgée, je ne suis même pas sûr de la revoir de son vivant. Puis 17 ans pour du trafic de stupéfiants, j'ai vu des violeurs prendre des 2 ans, des 3 ans. C'est dur à accepter. J'ai vu des gens tués qui avaient pris des 14 ans. Donc avoir une peine encore supérieure à ça, c'est déjà très très dur à accepter. Mon divorce, puisque vu la longueur de ma peine, j'étais en instance de divorce. Je ne voyais pas mes enfants parce que j'étais incarcéré à plus de 600 km de chez moi. J'avais été trahi par mes associés. Enfin, plein de choses qui me rongeaient de l'intérieur. Et au bout de quelques jours, je me suis dit, ok, t'es un grand garçon, t'as joué. Qu'est-ce qui t'attend dans la vie? Pas grand-chose. C'est peut-être le moment d'éteindre l'interrupteur. Et ce soir-là, j'ai écrit une lettre à mes enfants et à ma mère pour leur expliquer mon choix. J'ai attendu que le surveillant passe, donc j'ai entendu les œilletons s'ouvrir les uns après les autres. Il est arrivé à mon œilleton, il a regardé, il a continué sa tournée. J'ai entendu la grille du fond du mitard s'ouvrir, se refermer derrière lui. J'ai défait mon drap, je l'ai mis autour du barreau, je l'ai passé autour de mon cou. Et à ce moment, je ne sais pas pourquoi, le surveillant en fait, n'était pas parti, il avait fait semblant de partir, il était revenu sur ses pas. Il a ouvert l'œilleton à ce moment-là, il a sonné l'alarme, ils ont ouvert ma cellule, ils m'ont tout retiré. Et il s'est assis sur mon lit, il m'a dit « Écoute, je suis peut-être la dernière personne à avoir ma place à tes côtés, parce que mon père a été tué par un voyou, mais j'ai envie de prendre le temps de parler avec toi. » Donc je me suis assis à côté de lui. Il m'a dit « Quand on enlevait tes affaires tout à l'heure, j'ai vu que tu avais laissé une lettre à tes enfants, donc je vais te dire une chose qui est simple, tu peux en avoir marre de la vie, c'est ton droit, mais par contre, tu n'as pas le droit de laisser un tel héritage à tes enfants. » Donc il avait raison. Enfin, ça, c'est aussi pour dire que autant on peut tomber sur des cons finis, parce que c'est vraiment à cause d'un connard que je me suis retrouvé au mitard. Mais il y a aussi des surveillants qui sont humains, ça existe également. Et grâce à lui, je suis encore vivant aujourd'hui. Dans tous les cas, en prison, il y a à peu près 8 fois plus de suicides qu'à l'extérieur. Au mitard, c'est 20 fois plus. En plus des suicides, il y a aussi beaucoup de morts suspectes. Il y a énormément de cas, il y a encore au jour d'aujourd'hui qui sont en cours de procès et d'instruction. Qui que ce soit qui commet une faute, qui à un moment donné de sa vie, parce qu'il fait un mauvais choix, il n'a pas à mourir en prison. Qu'il ait une condamnation, qu'il ait une sanction, en tout cas pour ce qu'il a fait, c'est tout à fait compréhensible, mais personne n'a à mourir en prison. Je suis également auteur d'une autobiographie, Au-delà les murs. Quand j'ai écrit ce livre, c'est parce que je voulais montrer aussi à tous ces gens qui ne connaissent pas la prison qu'au-delà de ces murs, c'est avant tout des individus, des gens qui ont un parcours, qui ont des qualités, qui ont des défauts. Il n'y a personne qui se lève un beau matin en se disant « je vais devenir braqueur, trafiquant, je ne sais quoi ». C'est le cumul de beaucoup de choses qui font qu'à un moment donné, on en arrive là. Même si on passe par la case prison, il n'est jamais trop tard pour s'en sortir. Et j'en suis la preuve. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je m'en suis sorti. Je suis en train de monter mon association pour pouvoir intervenir en milieu ouvert et fermé. On peut tout changer à un moment donné. Mais dans tous les cas, une vie ne doit pas s'arrêter en prison. Merci.
Bon, salut Zvink, un des inculpés du 8 décembre. Petit passage par Fleury Mérogis aussi, moins long que le camarade. J'ai fait 11 mois de préventive, donc on a été arrêté le 8 décembre 2020. Suite à ça, j'ai fait 96 heures de garde à vue dans les locaux de la DGSI. Ensuite, arrivé à Fleury. Donc, parcours à Fleury était assez atypique, parce qu'assez vite, je savais que j'étais dans un bourbier politique et que les règles du jeu n'allaient pas être les mêmes. Donc, déjà, à la limite, j'ai commencé par le parcours de bâtiment. J'ai été 3 jours dans le bâtiment central en observation, je pense. Enfin, j'ai jamais trop su qu'est-ce que j'ai foutu là pendant 3 jours. On m'a mis au D4 où j'ai passé, je crois, 3 mois ou 4 mois, je sais plus bien. Et là, j'ai été transféré ensuite au D1, qui, je pense que c'est le pire bâtiment qui puisse exister à Fleury. En gros, j'étais DPS, ça veut dire détenu particulièrement surveillé. Donc j'avais constamment un carton rouge sur la porte avec écrit 2+1. Ça veut dire que pour mes déplacements, j'avais 2 matons et 1 gradé pour m'accompagner dans mes déplacements, que ce soit aller au parloir, à l'infirmerie ou autre. Donc ça, avec le temps, ça rétrograde. On passe en carton rouge tout court, puis carton jaune 2+1, puis carton jaune, et on reste carton jaune. Donc globalement, le D4 s'est assez bien passé, en fait. J'ai mis 2 mois, on va dire, à mettre mon cerveau en place, à comprendre ce qui m'arrivait, le choc carcéral, tout ce qui va, mais vu... Il y avait une ambiance au sein des détenus assez cool. Enfin, l'ensemble des détenus étaient assez jeunes. Donc ça rigolait en promenade, il y avait une bonne ambiance. j'ai assez vite pris mes marques. Et c'est quand on m'a transféré au D1 où là ça a été assez la dégringolade, qu'en gros au bout de 3 jours j'ai un parloir avocat. Ce parloir avocat, je mange des noix de cajou. Et là, à partir de là, ils me mettent. Alors, j'ai pas fait de mitard, j'ai pas fait d'isolement, mais j'ai eu de la 14aine. Donc, on m'a transféré au deuxième étage du D1, à retrouver mes affaires en vrac dans un sac, les photos de mes chiens déchirés, la gamelle renversée dans les vêtements. C'est le déglingué comme jamais. Et là, on me dit, bah, vu que tu as mangé en parloir avocat, on va te suspendre tes parloirs avocat et tes parloirs famille pendant un mois, je sais plus. Enfin, un petit bout de temps. Pas de contact familial, enfin rien du tout, sachant que c'était aussi en période Covid à Fleury. Donc déjà, les parloirs, il y avait un plexi. On ne pouvait pas toucher la famille, on ne pouvait toucher personne. Pendant 6 mois, ils m'ont pas fait la misère de façon directe. C'était à chaque fois de façon indirecte, me pousser à bout légèrement, tout doucement, jusqu'à un jour où le chef du bâtiment m'a dit clairement, en fait, les profils comme toi, on aime bien les tester. Parce que vu que j'avais le statut terreau et gauchiste de surcroît, ils aiment bien tester, pousser à bout, voire essayer de pousser à craquer. Et pareil, le chef parloir m'a clairement avoué que ça avait été fait exprès de me sauter mes parloirs, pareil, pour me tester, pour voir si j'allais pas craquer. Mais j'ai pas craqué. Et ouais, la violence carcérale, en fait, il y a plusieurs types de... Enfin, pas plusieurs types de violence, mais il y a plusieurs degrés ou axes, je sais pas comment l'expliquer. Il y a l'axe direct, à la confrontation directe, et l'axe insidieux, où tous les jours, on essaye de te pourrir un peu plus, te pourrir un peu plus... Genre, t'as un parloir, on t'emmène en retard au parloir. J'avais les fouilles systématiques à nu après chaque parloir. Donc, en fait, t'essayes d'avoir 40 minutes de bonheur, mais en fait, tu sors, bah, t'es nu, mis à nu, lève la patte, penche-toi en avant, tous. Enfin, t'es déshumanisé à mort, quoi. Pareil, on te met dans des cellules d'attente déglinguées, on te remet pas en cellule. Tu reviens de ta promenade, on a fouillé ta cellule, on a racheté tes photos, ou les fouilles aléatoires aussi. Bon, ça, j'en ai vécu qu'une fouille aléatoire de cellule. Enfin, de retour de promenade où on me fait une fouille à nu. Pour fouiller ma cellule en parallèle. Par contre, point positif, c'est que, en vrai, avec les détenus, ça s'est archi bien passé. Et tant mieux, en fait. On dira ce qu'on voudra, mais même s'il y a des histoires, même s'il y a tout ce qu'on veut, il y a quand même beaucoup de solidarité, beaucoup de soutien, quoi. Enfin, ça rigole tant qu'on peut, ça joue tant qu'on peut. Enfin, malgré tout, on se sent vivant, en fait. Et je pense que c'est un truc qu'il faut quand même assez dire, c'est que même si on est dans un bourbier, ça vit. Ça vit clairement et... Je ne vais pas dire qu'il y a de la joie, mais si aussi, il y a de la joie en prison. Enfin, voilà. L'administration pénitentiaire, elle est clairement faite pour essayer de briser ces moments de joie. Enfin, on veut t'empêcher de vivre, en fait. Tu es là, on te laisse vivant physiquement, mais on veut juste te briser mentalement et tout faire. Tout est contrôlé, tout est fait pour savoir ce qu'on fait H24. Genre, typiquement, une fois, on est venu me chercher à ma cellule pour une réunion. On ne comprenait pas bien pourquoi on n'était que 7 détenus, à l'étage. On ne savait pas, enfin, ils nous parlent, ils font, oui, on. Vous êtes là tous les 7 pour passer le message qu'il va y avoir des campagnes de vaccination pour le Covid et tout. Pourquoi nous 7? Et il avoue qu'à nous 7, en fait, on représentait tous les groupes de promenade. On avait accès aux 200 détenus dans la cour de promenade. Et il nous dit ouvertement, mais on vous surveille en promenade. On sait qui parle avec qui. On sait quels groupes sont formés. On sait tout ce que vous faites. Et ça, là, ça m'a fait un déclic vraiment. Ah ouais, mais vraiment jusqu'au bout, même en promenade, ton seul petit moment de liberté... Tu peux pas, on t'écoute, on te observe, on te regarde, on sait pertinemment tout ce que tu fais, quoi. Et ça, c'était assez violent de dire, ah oui, la prison a un tel contrôle, tel maintien de la vie en intérieur que t'as pas gagné une fois que t'es dedans, en fait, tu peux pas gagner. T'es foutu d'avance, quoi. Mais ouais, c'est assez bizarre, enfin, je sais pas comment l'expliquer, c'est un autre type de violence, c'est insidieux, enfin, ça se voit pas, ça se sent pas, on t'écoute. Enfin, moi, mes parloirs étaient sur écoute, on s'en doutait un petit peu. En fait, il y a des numéros sur les salles de parloir. Et j'avais remarqué que c'était souvent le même numéro, souvent la même salle de parloir. Donc, je m'étais amusé à noter les jours, les heures de tel parloir. Bon, on a eu finalement le fin mot de l'histoire qu'effectivement, dans le dossier, c'était marqué que mes parloirs étaient sur écoute. Donc, les parloirs, même familiaux, sont sur écoute. On peut être écouté même dans les moments les plus intimes. Il y a zéro vie privée, quoi. C'est la télé. Ouais, certes, t'as la télé, mais tu dois la payer. Si t'as pas les thunes, bah, t'es aux indigents, mais on peut quand même te retirer à la télé. Enfin, tout est payant, tout est dégradé. Et encore, moi, par rapport aux collègues, j'ai eu la chance que les cellules avaient été refaites à neuf. Donc, j'avais la douche dans ma cellule et le téléphone fixe dans la cellule. Mais à savoir que pour téléphoner à l'extérieur, ça te coûte un bras. Si t'as pas de soutien à l'extérieur, par mois, je crois que je déboursais 150 € de téléphone fixe. Genre, juste pour appeler 20 minutes tous les soirs. Je crois que c'est 30 centimes la minute sur un fixe, un truc comme ça. pour pouvoir téléphoner. Enfin, en fait, tout est fait pour vous isoler de l'extérieur. Ça pousse les gens à acheter des téléphones. On dit, ouais, c'est la fête du slip en prison, mais non. Un petit téléphone comme ça, c'est 150 euros. Pour avoir un iPhone, c'est 500 euros. Donc, avec toutes les problématiques que ça impose. Tout à l'heure, la camarade parlait des cantines. Bah, ouais, des cantines, c'est bien, mais encore, il faut avoir la thune sur son compte pour avoir ses cantines à temps, au moment où c'est livré. Il faut avoir du soutien pour avoir de l'argent sur les cantines. Pour peu qu'on n'ait pas son tabac ou autre, c'est peut-être vite atteint un drame. Enfin, moi, je fumais pas, donc ça allait. Les gens qui fument et qui n'ont pas leur tabac, ça fait des histoires. Point oui, point non. 90% des histoires, c'est parce qu'il n'y a pas de tabac. Du coup, les gens se dépannent, s'arnaquent les uns les autres. Et ça, l'administration en joue. Enfin, ouais, la prison joue. Enfin, Fleury joue au pion avec les détenus. Fait bien ce qu'elle veut de ses détenus, quoi, en fait. C'est, voilà. Après, de ce que j'ai pu comprendre, chaque prison est différente. Donc, c'est un peu difficile. Enfin, moi, je parle que pour Fleury, du coup, et de il y a 4 ans. Chaque prison a sa logistique interne de comment manipuler les détenus, enfin comment manipuler les gens et en faire ce qu'ils veulent, les pousser à bout ou pas, les utiliser. Je sais pas les termes pour dire ça tellement que c'est fourbe en fait.
Merci pour vos témoignages.
Derrière le yé, je rêve de m'évader, le trouble est dans ma tête. Et le maton, il te fait d'être au mauvais moment, mauvais endroit. Et vlant dans tes dents, tu choisis pas, prends ça, trahis ma vie. Mon nom s'allie comme si j'étais un assassin. C'est comme perdre une partie de poker contre Satan. Dans cette merde en chien, traité en moins que rien. Certains sortent puis reviennent de nouveau sous écrou. Dans ma cellule incamée, prends un cachet à chaque gamelle. Nouvelle, un suicidé, évacué, menotté, c'est le dawa. Enfin, pactage, libéra pour 49-203. Ah, pas si t'es sorti. Ça faisait des mois, j'ai remis lunettes, ma casquette et mes blanches baskets. J'ai rouvert et j'ai encore moins le goût pour la fête. Autour toujours nos embrouilles de rebeux et négros. Et le B de bleu sonne avec le B de barreau. Je dois signer, dire présent une fois par semaine, que personne m'engraine. Je dois pas me faire serrer avant mon jugement. Chez nous le son ne dit jamais, ça y est c'est fini. Ça m'arrivera pas à moi je pourrais pas béton. Donc à tous les lascars qui ont tourné dans le noir, à toutes les familles qui attendaient au parloir, à tous les concernés par ce genre d'histoire. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Porte bloquée, courrier, brève évasion. Donc à tous ceux qui ont galéré, qui galèrent en prison. À tous ceux qui te soutiennent pour pas que tu pètes les plombs. Tout le temps, tant de hargne, tout le temps, tant de larmes. Une pensée aux disparus, une pensée aux enfermés.
Pour avoir plus d'informations sur la mort d'Alassane Sangaré, qui est mort à Fleury-Mérogis le 24 novembre 2022, vous pouvez écouter l'émission du 24 janvier 2025 sur l'actualité des luttes.info où nous recevions les deux sœurs d'Alassane Sangaré.
J'ai 100 000 questions à vous poser à tous, mais la première qui me vient, c'est pour vous, la famille Sangaré. Est-ce que voilà, tu pourrais nous donner un peu plus de l'histoire aussi judiciaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait en fait?
Donc au niveau judiciaire, là, aujourd'hui, il n'y a rien. En fait, on revient à zéro. On a l'impression que tout ce qu'on a fait, ça n'a pas été vain parce que ça a fait avancer notre dossier. Ce qui est terrible, c'est qu'on a su qu'à dossier équivalent, malheureusement, le nôtre a avancé un petit peu plus vite. Pourquoi ? Parce qu'on est parti devant la prison, parce qu'on est parti devant l'institut médical, parce qu'on bouge sur les réseaux sociaux, on essaie de faire parler de notre cause. On va interpeller les élus, on va les forcer à essayer de monter des actions avec nous parce que sans ça, notre dossier tombe dans l'oubli. C'est ça la réalité. Il y a des millions de dossiers comme Alassane, il y a des millions d'Alassane. Mais ces millions-là, ils sont enterrés et personne ne veut les entendre. Malheureusement, c'est une réalité. Donc il faut essayer encore et encore et encore de faire parler de notre cause, mais c'est très compliqué. Aujourd'hui, il y a des causes qui sont un peu plus à la mode que les autres, alors que non, on devrait être tous sur le même pied d'égalité parce que c'est la même chose, on se bat contre les violences d'État. On ne devrait même pas les dissocier l'une de l'autre. Ce sont des violences d'État. Et à partir du moment où c'est l'État qui est responsable, tout le monde devrait prendre ses causes à bras-le-corps. Comme je le disais tout à l'heure, parfois on va voir des institutions. Ils vont se mettre en avant, aider certaines causes ou d'autres. Mais alors la prison, alors là c'est le néant. Là, oui, effectivement, nous avons de la peine. On n'a pas besoin de pitié, comme on le dit. Ce qu'on veut, ce sont des réponses à nos questions. Qu'est-ce qui s'est passé le 24 novembre 2022 à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis? Voilà. On sait qu'Alassane, il a été violenté à mort. On veut les coupables et on veut qu'ils soient jugés. C'est la seule chose qu'on veut. On ne veut pas de pitié, on ne veut rien d'autre, juste la justice. Et ça, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on l'a appris à nos dépens. C'est à nous de faire bouger les choses et de faire avancer notre dossier. Donc là, vu qu'on a une juge qui, pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'elle ait envie de faire avancer notre dossier, si on voit qu'au bout d'un moment, rien n'avance, nous envisagerons une mobilisation soit devant le tribunal d'Evry, puisque notre dossier dépend du tribunal d'Evry, soit devant la maison d'arrêt Fleurimeaux-Rugis. On l'a déjà fait plusieurs fois. Voilà, on ne va pas dire que c'est une habitude, mais la peur du début n'est plus celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est déterminé, on veut juste des réponses à nos questions. S'il faut aller devant la prison, on l'a déjà fait, on le fera. Mais on ne peut pas y aller toute seule. Il faut qu'on soit aidé, il faut qu'on soit accompagné, on a besoin de vous. Essayez d'être à nos côtés, aux côtés de ces familles-là qui ont besoin, parce que c'est compliqué. Et le nombre fait la force aussi. Et donc, c'est hyper important.
Moi, je parle au nom du groupe qui s'est organisé à Paris à partir de juin dernier pour venir en solidarité aux prisonniers kanaks qui ont été déportés en métropole. Et en fait, il y a quelque chose qui revient toujours, nous, dans le travail de solidarité qu'on fait, c'est que donc, ce qui a été dit à plein de reprises, à savoir que chaque prison est différente et qu'en fait, il y a un vrai travail d'isolement. Enfin, déjà, la prison et l'enfermement, ça isole, mais il y a vraiment un travail acharné de la prison pour empêcher toute solidarité de l'extérieur. Le fait que là, on a des dizaines et des dizaines de détenus, de prisonniers qui ont été donc déportés dans des dizaines de prisons différentes. Donc on essaye vraiment de les isoler. On a genre des personnes qui sont 2-3 kanaks dans la prison, donc vraiment isolées. Et chaque prison a des règles différentes. Pour apporter du linge, pour envoyer de l'argent, c'est jamais pareil. C'est très souvent conditionné à un permis de visite qui sont super durs à obtenir. Même en fait, la mère d'un prisonnier a mis des semaines à réussir à obtenir un permis de visite pour son fils, alors qu'elle avait fait le voyage en France pour pouvoir être près de son fils, tout ça. C'est super dur de trouver des informations. Faut appeler chaque prison. Et les informations, c'est pas seulement qu'elles changent en fonction des prisons, c'est qu'elles changent tout le temps. Ça nous est arrivé. On arrive à déposer un sac de linge début janvier. 2 semaines après, on va en déposer un autre pour le même détenu dans les mêmes conditions. On nous dit non, c'est plus possible. Maintenant, il faut un permis de visite. On appelle des prisons. On nous dit ok, là, je vais envoyer de l'argent. Est-ce que c'est bon? On te dit oui, tu peux envoyer de l'argent. Ton argent, il est refusé. Tu rappelles, tu dis ah non, en fait, il faut un permis de visite. Tout est fait pour qu'on ne puisse pas exprimer en fait notre solidarité. Et je pense que c'est quelque chose dont les personnes qui ont passé du temps en tôle peuvent témoigner. En fait, c'est super dur de recevoir de l'argent, de recevoir des fringues, tout ça. Et la vie en prison coûte super cher. En fait, on a déjà vu des trucs passer où en fait, il y a des estimations pour en fait mener une vie ne serait-ce que correcte en prison. Il faudrait pouvoir lâcher 1 000 euros par mois, quoi. Enfin, c'est inconcevable. Et là, dans le cas des prisonniers kanaks, par exemple, une autre violence d'État pour le coup, c'est que ces prisonniers ont été déportés de force. Certains sont libérables là dans quelques mois. Ils vont être libérés en France s'ils veulent retourner en Kanaky. C'est les prisonniers qui doivent payer leur billet d'avion. On parle de billets d'avion à 1 500, 2 000, 3 000 euros pour des prisonniers qui, des fois, touchent à peine les 30 euros d'indigence de la prison, quoi. Il y a une vraie violence à ce niveau-là et aussi une déshumanisation dans le sens où il y a plein de prisonniers, enfin plein de prisons, où en fait, pour déposer du linge, il y a des conditions absurdes, enfin plein de couleurs qui sont interdites, la capuche, c'est interdit. Il y a des prisons où pour déposer une paire de baskets, il faut qu'elles soient neuves et avoir le ticket avec. Enfin, et il y a des prisons où en fait, le bleu, le vert, le jaune, l'orange, le rouge sont interdits. Enfin, ils arrivent en quartier arrivant, on ne peut pas avoir de contact avec eux, on met des semaines à obtenir des numéros d'écrou et en fait, sans numéro d'écrou, tu ne peux rien faire. Quand ça fait 3-4 semaines qu'ils sont arrivés, qu'on arrive enfin à entrer en contact avec eux, pour déposer un sac de linge sans permis de visite, c'était maximum un mois après l'arrivée du détenu. Et là, en fait, plus rien n'est possible. Et il faut demander des autorisations à la chaîne pour la moindre démarche. Si tu veux envoyer de l'argent, tu dois demander une autorisation et expliquer pourquoi, et expliquer c'est quoi ton lien avec le prisonnier. C'est à l'appréciation de la prison, en fait, de te dire oui ou non. Ils n'ont pas besoin de te donner de raison, juste ils peuvent dire non. Et de la même manière, il faudra faire une demande différente pour déposer du linge, une demande différente pour pouvoir voir la personne. Enfin, il faut des demandes à chaque fois qui prennent énormément de temps. Imaginez le temps. Donc, tout se fait par courrier, hein, envoyer une lettre au prisonnier. Le temps qu'ils la reçoivent, qu'ils te répondent, ça coûte aussi de l'argent, en fait, les timbres, les enveloppes, tout ça. Et ça prend énormément de temps. Et la prison n'est pas obligée de te répondre. En fait, s'ils n'ont pas envie de te répondre, ils ne répondent pas. On a des prisonniers aussi qui ne reçoivent pas les lettres et on ne comprend pas pourquoi. Et un des trucs aussi, la prison tue, la prison vole. Il y a plein de détenus en fait qui n'ont pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de base. Et ce qui nous est arrivé récemment, c'est qu'on arrive enfin à déposer un sac de linge à un détenu, et 2 heures après, la mère nous appelle en nous disant qu'il a été transféré dans une autre prison. On a déposé du linge, ce sac de linge n'est jamais arrivé au détenu. Ça faisait des semaines qu'il était là, qu'il n'avait pas d'affaires. On arrive enfin à lui faire parvenir des affaires. Il est déporté dans une autre prison en France. Personne n'est au courant. Et là, on a un sac de linge qui est perdu. On recommence à zéro. Et ce détenu-là, il n'a toujours pas d'habits, quoi. Et donc, voilà. Enfin, il y a vraiment un travail acharné pour empêcher la solidarité. Et je suis à peu près certaine que c'est quelque chose qui se ressent à l'intérieur, quoi. Et qu'en fait, il y a des prisonniers qui... Ça fait des mois qu'on essaye de leur déposer des sacs de linge. Et en fait, tout est compliqué, quoi. Donc voilà, on se bat tous pour la même chose. Tous les gens qui luttent ont besoin de solidarité et de solidarité financière aussi. Et comme ce qui revient souvent, c'est que la prison, ça produit de l'isolement. Pour combattre ça, en fait, il faut en parler autour de vous. Il faut partager les cagnottes qui tournent, donner si vous pouvez donner, prendre du temps pour aller au rassemblement devant la prison ou ailleurs. Et que vraiment, genre, c'est trop important d'en parler parce que c'est trop dur, en fait, de se sentir isolé à l'intérieur. Et que du coup, prenez du temps, de l'argent si vous pouvez, quand vous pouvez. Il y a plein de luttes et chaque énergie qui est mise dans la lutte, ça compte quoi et ça produit quelque chose derrière quoi. Merci.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou poser une question ? Georges Abdallah, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est le plus vieux prisonnier politique de France, pardon. Ça fait plus de 40 ans qu'il est en prison. Il va peut-être être libéré le 20 février. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il y a une journée nationale d'action le 8. Donc, ce sera, je pense, à République, sûrement. Samedi. Donc, le 8, c'est samedi prochain. Ouais.
Moi, je voudrais juste faire un petit peu de prévention. C'est surtout, on a tous pratiquement un proche ou on connaît tous quelqu'un qui a fait de la détention. Et il faut savoir que quand il y a quelqu'un qui décède en détention, il y a une autopsie qui est faite. C'est une autopsie d'État. Il est ultra, ultra important que si on a un doute, de contrer cette autopsie en demandant une autopsie, comment on appelle ça ? Une contre-expertise, voilà. C'est ultra important parce que le premier expert, c'est un expert qui est désigné par l'État et il conclura par ce que l'administration pénitentiaire a dit. Voilà, et on va dire que c'est complètement le complice de l'administration pénitentiaire quand il y a une mort suspecte. C'est le premier réflexe. Le deuxième réflexe, c'est que quand ils savent qu'ils sont coupables des faits qu'on leur reproche, on va parler comme eux, hein. Ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent aux familles, comme ils savent que les familles n'ont pas prévu que cette personne allait mourir en détention, que le trajet pour amener le défunt dans son pays vaut 3 000 euros et qu'on n'a pas forcément ces thunes-là. Donc ils vous disent, on vous paye, on va vous payer le transport, comme ça vous n'avez plus rien. Et ben ça, c'est faut surtout refuser. Parce que depuis quand l'État nous aide à envoyer nos familles dans nos pays ils savent qu'on est dans le deuil, ils savent qu'on est dans la douleur, ils savent qu'on est dans la souffrance, qu'on est perturbé, il y a plein de choses qui passent en même temps. Et il faut bien évidemment refuser parce que dès l'instant, et c'est cru ce que je vais dire, que le corps est enterré, il n'y a plus de contre-autopsie. Le premier rapport sera le seul et unique et on ne pourra plus rien faire. C'est ultra important, c'est dur, mais il faut le faire, malheureusement. Je voulais absolument le dire parce que c'est très rare qu'on en parle et qu'on le dise. Voilà, il y a plein de réflexes comme ça. Comme tu disais, surtout faire des appels à témoins. Quand on est enfermé, on perd de la vue parce qu'on voit plus de loin, mais on développe le l'ouïe. On entend souvent des choses très graves qu'on aimerait dire et que des fois on peut pas. Et le fait d'avoir ces familles qui demandent de l'aide, eh ben ça peut nous donner de la force, nous, à l'intérieur, parce que il est important de dire ce qui s'est vraiment passé, parce que c'est les protéger de rien dire. Voilà.
La violence de l'enfermement, la déshumanisation, génère de la lutte, de la solidarité. On sait qu'il y a des endroits dans le monde où on ferme les prisons. Je m'adresse à l'envolée. Et je voulais savoir, voilà, pour nous donner aussi un peu d'espoir, un peu de visibilité, un peu de futur désirable, est-ce que vous pouvez nous parler de l'abolitionnisme ?
Nous, en tout cas, quand on fait le journal, l'idée, c'est essayer de construire un point de vue avec les personnes à l'intérieur sur la société en ce moment, quoi. Et le truc, c'est que la prison, c'est une partie de la société et c'est une partie qui permet de faire tenir le système capitaliste et d'exploitation qui supporte, quoi. Voilà, et toutes les formes de domination de genre, raciale et de classe qui sont dans la société, quoi. Nous, on a un double regard là-dessus parce que, en fait, tu vois, par exemple, franchement, alors je connais mal les expériences et tout ça qui se passent en Hollande et tout ça, où ils ferment un peu des tôles et tout ça. Mais en fait, en tout cas, nous en France, le gros débat qu'il y a et qui est souvent porté et tout ça, et parfois par des associations qui devraient être amies et tout ça, d'alternatives à l'incarcération, c'est-à-dire celle en fait d'un contrôle social qui va être différent, ce qui va se passer à travers le bracelet électronique. Mais en fait, le bracelet électronique, tu supportes pas plus de 6 mois. Ça va se passer à travers tes rendez-vous SPIP où en fait tu vas être surveillé. Enfin voilà. Enfin, en fait, si tu remplaces une sorte de contrôle social qui va être à travers l'enfermement par un autre contrôle social qui va être de la surveillance ou qui soit un enfermement à domicile, en fait, on va pas trouver que ça soit beaucoup mieux. Donc je sais pas comment ça se passe là-bas, mais en fait, c'est quand même des espaces qui sont souvent pris en exemple par un PS Bontain, en fait, qui se veut un peu humaniste. On va moins enfermer, mais en fait, on va plus contrôler les gens. Et donc nous, enfin, on va pas... En tout cas, la discussion qu'on a avec les gens à l'intérieur, c'est la prison, elle sert à quoi pour la société? Et en fait, pourquoi on nous enferme? Bah, en fait, voilà quoi, on enferme les pauvres et les racisés. Je veux dire, c'est évident. Enfin, je veux dire.
Moi, la seule chose que j'ai appris en étant en prison, c'est de ne plus en avoir peur. C'est la seule chose que j'ai appris en tôle. C'est maintenant je connais le fonctionnement, c'est garde à vue, palais de justice, procureur, allez hop, Fleury ou autre. Quand avant d'y aller, j'avais une appréhension, maintenant c'est la seule chose qui m'a apprise, voilà, j'ai plus peur de tout.
Si les juges ils continuent à enfermer toujours plus, que ce soit les juges administratifs dans les centres de rétention administratifs ou dans les tôles et tout ça, ça se passe dans les comparutions immédiates, c'est pas enfin en fait j'arrive pas à appeler ça de la délinquance quoi. Enfin, tu vois, tu te fais toper en bas de ton four ou tout ça ou juste t'attrapes dans t'as un portable qui traîne sur une table dans un bar et puis tu le récupères en passant et puis voilà et tu vas te retrouver à prendre 6 mois et tout ça. Donc c'est vraiment dirigé contre une certaine partie de la population voilà. Donc enfin je sais pas moi quand je discute avec mes potos et tout ça ils me disent et tu remplaces par quoi? Bah excuse-moi mais en fait pour tous ces gens-là en fait il y a besoin de rien. Enfin en fait voilà tu ça, en fait enfin, ça fait partie des bails qui sont complètement aberrants. Je crois que ça coûte 3000 balles par mois, l'enfermement d'un individu, quoi. En fait, filez-nous les 3000 balles. Enfin, voilà, je sais pas. Nous, ce qu'on a toujours défendu, c'est que quand t'es à l'intérieur, t'as un certain point de vue de la société. Et donc, nous, ce qui nous semble le plus important, c'est de relayer au maximum cette parole. Ça les fait chier, on nous censure pour ça, voilà. Mais donc nous, c'est là-dessus qu'on a des perspectives de lutte, mais aussi parce qu'on sait qu'à l'intérieur, c'était toi, Geneva, qui le disais tout à l'heure quand tu disais témoigner et tout ça. En fait, c'est prendre un risque à l'intérieur. En fait, il y a un truc qui est vraiment différent des violences policières. C'est-à-dire que nous, en fait, on a nos, enfin, les gens, ils ont des téléphones, ils peuvent filmer tout ça, voilà. Quand t'es à l'intérieur, tu peux pas filmer. Et si t'ouvres ta gueule, t'es entre les mains des matons encore qui viennent de tuer ton pote. Et donc, il y a un truc où tu prends des risques de fou, en fait, si tu témoignes, parce que tu sais qu'en fait, ces gens qui viennent de buter quelqu'un, bah déjà, ils peuvent te buter toi-même. Et après, derrière, ils vont te foutre au mitard, ils vont faire vivre la misère et tout ça. Et donc, pour nous, c'est essentiel de croire les prisonniers quand ils parlent. Et pas de commencer à faire une enquête de est-ce qu'ils disent, est-ce que c'est vrai, tout ça, gna gna gna. C'est non. En fait, un prisonnier et une prisonnière, quand elle va témoigner, elle prend tellement de risques. Qu'en fait, elle fait pas ça pour rien. Et donc, à ce moment-là, il faut l'écouter et la relayer. Voilà. Et déjà, si on arrive à entendre et écouter dans la société, de la même manière que les luttes des familles de violences policières, elles ont fait que maintenant, quand un keuf y parle, c'est un peu moins crédible. En fait, il faudrait faire la même chose sur la tôle. Voilà. Et après, derrière, espérer que petit à petit, ça grignote et que dans les tribunaux, voilà. Mais dans les faits, on sait que ça marchera pas parce que la justice, elle est de leur côté et tout ça. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a entre les mains, c'est de croire les prisonniers et de relayer cette parole, la diffuser le plus fort. Et c'est une manière de briser l'isolement qu'il y a. Donc, perspective, je dirais, celle-là, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus encourageant, mais nous, on n'a jamais rien promis à l'intérieur. enfin tu vois, quand on a des gens qui nous contactent et tout ça, on leur dit pas qu'on va leur changer leur situation intérieure, parce que voilà. Donc moi je vais pas donner de faux espoirs ici qu'on va faire la révolution tous ensemble et tout ça, qu'on va y arriver, parce que voilà. Mais par contre, relayer tout ça et tout, et bah ça on peut le faire, et c'est entre nos mains, et on a besoin de son père.
Merci à tous pour vos interventions, j'ai trouvé ça, j'ai beaucoup appris vraiment. Mais je voulais savoir les mots de l'esprit et les mots du cœur, parce que vous êtes dans la lutte H24, comment est-ce que vous faites vous pour les soigner du coup?
Comment on fait? Ben, on essaye de faire en sorte que ces gens-là ne soient pas seuls déjà, qu'on essaye de, c'est la solidarité, la force, l'union. Faire comprendre que chaque personne qui vit cette douleur, ben, en vrai, il y en a d'autres. Et c'est ce qu'ils essayent de faire, de nous diviser, comme à l'époque, tu vois. Ils essayent de nous diviser. Et le fait qu'il y a plusieurs familles victimes de ces décès en, à l'intérieur, de ces morts suspectes, soient ensemble, ils cèdent entre eux. Et à la finale, je sais pas, c'est toujours cette même douleur qu'on, nous, quand on entend les témoignages à l'envolée. Ça reste toujours la même douleur, la même souffrance. Et c'est vrai que quand on nous contacte, ces familles sont seules. Et nous, le but, c'est de les mettre en lien et d'éviter justement qu'ils arrivent à leur faire croire que c'est un cas unique, tu vois, et qu'ils vont être tout seuls face à cette structure qui fait peur, en vrai.
Bah justement, par rapport à, comme tu disais, Sylvain, pour briser l'isolement, c'est d'aller justement vers ces familles endeuillées ou ces victimes survivantes. Et ça, c'est aussi l'occasion des journées de commémoration ou des événements comme ici, où on peut justement échanger ensemble entre victimes, familles endeuillées, autour du dossier judiciaire justement, pour justement s'échanger un peu les billes. À savoir, voilà, moi je suis passée par ça, vous évitez de passer par là, et ainsi de suite, quoi. Et aussi, ce que nous on a mis en place au niveau du réseau, c'est aussi de pouvoir, parce qu'on lutte, mais il faut prendre soin de soi aussi. Donc que ce soit violence policière, pénitentiaire, psychiatrique ou autre, on a mis en place une formation pour justement l'accompagnement des victimes. Donc sur 5 types d'accompagnement, à savoir l'accompagnement juridique, psychologique, social, médiatique et financier. Voilà, exactement, c'est ça. Voilà. Donc pour justement toutes les personnes qui se posent la question à savoir mais comment on peut venir en aide aux familles endeuillées, aux victimes survivantes, ben c'est par rapport à ça, d'aller vers ces personnes-là et de pouvoir voir avec elles quels sont leurs besoins. Voilà.
Et moi j'aurais aimé savoir les familles qui sont là, est-ce qu'elles ont contacté les associations qui sont censées s'occuper des prisonniers dans les centres de rétention ou dans les prisons, notamment avec les politiques aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus, ceux-là.
C'est toujours difficile de faire avancer les choses avec les politiques. Je pense que chacun essaie d'intervenir à son niveau. La semaine dernière, on a été invité avec l'OIP à l'Assemblée nationale, où on a projeté le film L'Angle Mort, Mitard L'Angle Mort, donc où il y a eu des morts suspectes et des suicides aussi. On a été plusieurs anciens détenus à être présents, à pouvoir témoigner, donc il y a eu quand même des échanges. Maintenant, on attend les résultats et qui sont toujours loin à venir parce que ceux qui sont présents ne sont pas forcément les décideurs d'aujourd'hui.
Alors nous, on les a tous sollicités. La Ligue des droits de l'homme, les défenseurs des droits, l'OIP, tous les élus, députés, sénateurs. On a eu des réponses de 2 députés. On a été reçus par Mathilde Panot, Farida Amrani, qui nous ont reçus à l'Assemblée nationale, mais ça n'a pas été... Voilà, on n'a pas eu d'effet juste derrière. On a été reçus par 2 sénateurs qui ont quand même se sont sentis concernés. Ils ont envoyé des courriers au garde des Sceaux. La mairie du lieu d'habitation où j'habite a aussi envoyé un courrier au garde des Sceaux pour avoir des réponses. Mais bon, c'est toujours les mêmes réponses lambda. Nous, en tout cas, de notre niveau, on les a tous sollicités. Mais ce qu'on déplore, justement, c'est au-delà des élus, c'est plutôt les organisations comme la LDH, la Ligue des droits de l'homme et les défenseurs des droits. Là, nous, pour nous, on se demande à quoi ils servent. C'est terrible ce que je dis, hein. Mais on se demande à quoi servent ces organisations. Voilà, merci.
Merci à tout le monde. Merci à vous pour vos témoignages. Merci aux gens qui ont posé des questions. C'était un échange très intéressant.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là de revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Vous écoutez l'actualité des luttes,
comme tous les jours du lundi au vendredi,
de 12h30 à 13h30,
sur FPP,
fréquence Paris Pluriel 106.3. L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedeslutte.info.